sortant de chez mon fils, ils sont allés dans la cellule de l'autre détenu. Alors qu'ils avaient l'habitude de se parler par la fenêtre, il ne l'a plus jamais entendu.
Je m'appelle Charlotte, je suis l'épouse de Jimoni Rousseau Sissoko, qui a été tuée au quartier disciplinaire de la prison de Montchocolin le 25 janvier de cette année. Elle est décédée une semaine plus tard puisqu'elle était en mort cérébrale.
Je suis la maman de Idir, paix à son âme, mort le 9 septembre 2020 à la maison d'arrêt Lyon-Combat.
Mon fils a été incarcéré en avril 2020. Il a été placé en quartier disciplinaire fin août.
En fait, on nous a appelé 24 heures après son accident, ou devrais-je dire plutôt son assassinat, pour nous prévenir qu'il avait été reçu à l'hôpital à cause d'une crise cardiaque. Donc vous vous doutez bien qu'on mari, 28 ans, en pleine santé, et une crise cardiaque, on se demande ce qui s'est passé. Et effectivement, on a vite reçu des témoignages de prisonniers nous indiquant qu'il avait été battu par les surveillants dans sa cellule du quartier disciplinaire, quand plusieurs hauts gradés avaient battu mon mari jusqu'à ce qu'il soit mort sans suite.
Ça se passait très mal avec l'équipe de surveillants. Mais comme il n'est pas du genre à se laisser faire, les mauvais traitements se sont multipliés. À lui refuser la douche après la promenade, allant jusqu'à couper l'eau. Mon fils a dû boire l'eau des toilettes par tant de grosses chaleurs.
Si on ne serait pas battu pour voir le corps de mon petit frère, on n'aurait jamais su qu'il aurait été assassiné à Corba. Puis on a dû courir à travers tout Lyon, à travers toutes les morgues pour trouver le corps parce que l'administration pénitentiaire nous a pas touché un seul mot, nous a même pas prévenu pour nous dire que mon frère a été assassiné.
Après la mort de mon fils, j'ai été à la morgue, j'ai vu mon fils, j'ai vu le corps de mon fils, il avait plein de traces. Et le médecin, dans le rapport de médecin, il mentionne qu'il y a des traces, mais il ne va pas plus loin. Il ne dit pas pourquoi il y a des traces. Et on voit des hématomes de 1 cm, je ne sais pas quoi, et après il passe. Ça s'appelle une enquête bâclée.
C'est le quartier disciplinaire où on envoie les détenus en guise de punition, en fait, tout simplement. On vous met dans une petite cellule, vous êtes tout seul et vous avez droit à rien, à part un lit et des WC. Voilà. Et il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra dans ces quartiers, c'est souvent là-bas qu'on retrouve des meurtres, des crises cardiaques, des soi-disant suicides, pas mal de surveillants se permettent justement de donner des corrections aux prisonniers dans ces cellules, puisqu'ils savent qu'il n'y a pas de témoin, il n'y a aucun témoin en quartier disciplinaire, pas de caméra, pas de témoin.
Un autre détenu a subi la même chose. À bout de nerfs, ils se sont mis à insulter les surveillants à travers les murs. Ce jour, la chef, avec d'autres surveillants, sont rentrés dans la cellule de mon fils et l'ont roué de coups tout en le maintenant ventre à terre et en lui écrasant le cou avec un genou. Il a failli y passer car il n'arrivait plus à respirer.
La veille de son assassinat, je l'avais eu au téléphone. Et son compagnon de cellule, il avait été mis au mitard pour l'isoler. Comme par hasard, ouais, le jour des faits, et je l'avais au téléphone le soir vers 22h et des poussières, il me dit « Attends, il y a du bruit, je crois qu'il y a les matons, je te rappelle. » Et depuis ce jour-là, depuis ce moment-là, il ne m'a plus appelé.
En sortant de chez mon fils, ils sont allés dans la cellule de l'autre détenu. Alors qu'ils avaient l'habitude de se parler par la fenêtre, il ne l'a plus jamais entendu. Mon fils alors a cru dans un premier temps que le jeune a été transféré. Mais le lendemain, il a appris la mauvaise nouvelle. Le jeune était mort. Lors de la promenade, il a appelé ma fille en pleurant et en lui disant que les surveillants avaient tué le jeune et que s'il lui arrivait de mourir, ce serait eux qui le tueraient, mais qu'il se suiciderait jamais, quoi qu'il arrive.
Des exemples, un jour, je me suis retrouvée au mitard et elle m'a dit, il y a un gardien, il a baissé son pantalon et il m'a, excusez-moi du terme, mais m'a pissé dessus. Donc voilà le genre de traitement qu'ils peuvent infliger parfois aux prisonniers. Et à quel nom, sous quel prétexte ils peuvent se permettre de faire des choses comme ça.
Comme il le criait à qui voulait l'entendre, les sévices, les abus de pouvoir se sont multipliés. Mon fils a été placé dans la cellule du mort et les gardiens lui soufflaient qu'il n'avait qu'à se pendre à son tour. Nous avons rendu visite à notre fils le 10 octobre. Il était méconnaissable. Il avait perdu au moins 5 kilos. Il était complètement traumatisé et hors de lui en même temps. Alors, j'ai refusé de sortir du parloir. Je voulais voir un responsable. Le lendemain, trois gardiens cagoulés se sont acharnés sur lui, en le frappant et en l'insultant, malgré mon intervention. 4 jours après, ils l'ont transféré dans une autre prison. Depuis, ils l'ont accusé d'apologie de terrorisme et l'ont mis en isolement pendant 6 mois. Il vient tout juste d'en sortir.
Paraît que le pouvoir s'achète. Liberté, c'est tout ce qui nous reste.
Si quand tu tues un jeune, ça veut dire qu'il tue toute une famille derrière.
On sera acteur de la paix. S'il faut, vos discours sont si faux. Ouais, s'il faut.
Plus encore que pour les violences et les crimes policiers, la France est aussi régulièrement mise à l'index, nationalement et internationalement, dans des rapports dénonçant ces conditions inhumaines et dégradantes de détention, dont 19 fois par la seule Cour européenne des droits de l'homme.
Pourquoi ? Si tout était clair, les directions n'informent pas les familles, sans tarder, ne restituent pas les effets personnels, ainsi que les documents administratifs directement après le décès. Trop souvent, plusieurs mois après, les familles n'ont toujours pas pu récupérer ces effets, soi-disant perdus ou détruits. Parfois même, l'administration va jusqu'à taire un décès pendant plusieurs semaines et certaines familles ne l'apprennent que par l'intermédiaire des détenus.
Mais en France, en prison, on ne fait pas que vivre mal. La prison tabasse aussi en bande organisée et tue en silence.
La prison est déjà une grande souffrance. Les prisonniers ne doivent pas, en plus, y perdre la vie. Nous ne voulons plus que la pénitentiaire se cache derrière le silence, le mépris, le mensonge dans ces zones de non-droit et bien à l'abri de leur prison.
L'État orchestre ça, toutes ces violences. Donc maintenant, les flics descendent dans les rues pour faire un festival, pour se plaindre de leurs moyens. Pourtant, ils ont les moyens de monter un festival comme ça, comme ils l'ont fait. Et qu'est-ce qu'ils veulent ? Plus de moyens pour nous massacrer, pour nous tuer. Ils ont toutes les lois déjà qui les protègent. Ils ont l'humilité. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus ? Qu'est-ce qu'ils veulent de plus ?
J'écris ça un soir pour un nouveau matin. Oui, j'écris pour y croire. L'avenir est incertain. Moi, j'écris car nous sommes. Nous sommes dans la main. Moi, j'écris car nous sommes. La génération de
qui peut continuer de croire la pénitentiaire ? Qui peut encore penser que la loi est la même pour tout le monde ?
Donc si aujourd'hui, on ne s'organise pas, quand je dis nous, vous êtes concernés aussi, si on ne s'organise pas et qu'on ne met pas des outils en place pour se défendre, pour se protéger, pour prendre soin de nous, pour protéger l'avenir, la jeunesse qui est là aussi, qui percute sur les choses, on est foutu. Ça, il faut le comprendre. Donc, c'est à nous de mettre des choses en place pour nous protéger et pour protéger notre futur aussi, la jeunesse.
Stop aux crimes maquillés au suicide. Nous sommes toutes et tous, celles et ceux, décédés dans vos prisons. Au nom de la discipline et effacés au nom de l'omerta. Mais désormais, nous veillerons à ce que rien ne reste sous silence. Nous veillerons à ce que leur histoire et leur mémoire soient toujours présents. Car s'ils n'étaient pas pour vous que de simples numéros d'écrou, pour nous, ils étaient des fils, des filles, des pères ou des maris, des amis. Et pour cela, nous ne baisserons jamais les bras. Reposez en paix.
Ceci est notre message, notre ultime avènement.
Il n'y a forcément un Mohamed, il n'y a forcément un Rachid, il n'y a forcément un Mamadou qui est mort dans ce putain de bizarre. Du coup, on pourrait dire justice pour tous les prénoms, masculin, féminin, justice pour tous. Sans justice, pas fait. Sans justice, sans justice.
La liberté, la liberté.
Parloir tire sa révérence après un an et demi de service sur Transistor. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont soutenu l'émission sans faille dans l'assaut et en dehors, qui ont pu y participer de manière plus ou moins régulière et qui ont eu l'occasion de discuter, débattre, participer à la diffusion des questions anticarcérales et abolitionnistes avec Parloir. Mais Parloir ne s'arrête pas là. Parloir reprendra du service dès la rentrée à son rythme habituel, toujours en FM dans la petite cuillère sur Radio Canu et surtout au sein d'un nouveau collectif de production audiovisuelle autonome qui s'appelle Zoo, qui va se mettre en route cet été. J'ai hâte de revenir vous proposer la suite de l'émission dès septembre 2021. Alors, à très bientôt !